L'invention du quotidien. Le quotidien, ou ce que l'on appelle tel, est-il forcément l'inlassable retour du même, une fastidieuse répétition ou l'ennui naîtré de l'uniformité? Pourtant, au cœur de cette monotonie, respire mille souffles. Bruissent mille machineries plus ou moins ingénieuses, se noue une foule de liens, s'invente une infinité de mondes. Aussitôt faits, aussitôt défaits. Choses infimes et éphémères, dispersées, célibataires et impertinentes, choses infimes qu'aucune discipline, aucune autorité, aucune légitimité ne viendra un jour relever, souligner, reconnaître. Mais choses infimes qui rappellent que le sujet et la vie ne se laissent pas aussi facilement réduire au silence. Comme si la monotonie du quotidien était minée par mille rébellions, peuplée d'art de fer et de savoir modeste, torturée par la nécessité d'exister. Car le quotidien, c'est aussi ce qui se crée et qui crée des points de fuite. Points de résistance face à cette raison technique qui croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun un rôle, une place. Extrait de l'invention du quotidien par Michel de Certeau.
Depuis une bonne trentaine d'années, je m'intéresse au travail. Plus précisément, j'ai commencé par des recherches en psychopathologie du travail et à l'instar de Le Guillan et de Bégoin, je cherchais à mettre en évidence des maladies mentales spécifiquement liées aux contraintes de travail, comme l'était à sa façon la fameuse névrose des téléphonistes et des mécanographes dont vous avez sans doute entendu parler. La pathologie ressortit à l'extraordinaire et évoque inévitablement l'idée de crise, de décompensation, de rupture, plus ou moins spectaculaire, avec le quotidien. Je parle pour le monde commun. Comme vous le savez, il n'a pas été possible de mettre en évidence de maladies mentales spécifiques du travail, comparables en psychiatrie, à ce que sont les maladies professionnelles affectant le corps, comme on les décrit en médecine du travail. C'est pourquoi j'en suis venu à proposer donc un retournement épistémique, pour ne pas capituler précisément devant la résistance qui s'opposait à l'étude des rapports entre travail et santé mentale. Ce retournement consiste à admettre que, dans leur majorité, les hommes et les femmes qui travaillent demeurent dans la normalité. La normalité ressortie à l'ordinaire, comme la pathologie ressortie à l'extraordinaire. Or, à l'époque, dans les années 70-80, la normalité avait mauvaise réputation. Elle n'avait aucun intérêt, et elle était surtout considérée comme le résultat final d'un processus de normalisation. Avec les théories d'alors sur l'ordre social et sur le contrôle social, la normalité passait pour un état proche de l'aliénation. L'homme normal était un peu sommairement considéré comme un crétin social. N'oublions pas qu'à l'époque régnait quand même le taylorisme avec tout ce qu'il annonçait d'horreur sur la machinalisation de l'être humain. Et donc, c'est vrai que le taylorisme, l'organisation scientifique, est une grande machinerie de conditionnement et d'aliénation, donc de normalisation, c'est vrai. Aujourd'hui, je le dis juste en passant, au système Taylor succède un nouveau système de normalisation, au moins aussi puissant, puisqu'il menace de normaliser tout le monde, y compris les psychiatres. Et ce nouveau système n'est autre que l'évaluation individualisée des performances. Pour donc réhabiliter la normalité, j'ai essayé de soutenir un point de vue différent, à supposer qu'effectivement, la majorité de ceux qui travaillent soient normaux, la question devient, mais comment font donc ces hommes et ces femmes qui travaillent pour, dans leur majorité, demeurer dans la normalité, en dépit de contraintes de travail qu'on peut de façon plausible considérée comme délétère. par exemple les contraintes de travail répétitif sous contrainte de temps que j'évoquais avec le système Taylor et ses applications fordiennes. Du coup, c'est la normalité elle-même qui devient énigmatique. La normalité apparaît finalement plutôt comme un compromis, moins glorieux certes que la santé, mais enfin tout de même, qui suppose un ajustement du mode de vie en sorte de maintenir une compensation, voire une stabilisation dans le meilleur des cas des processus pathogènes. En ce qui concerne donc les compromis, plus précisément avec les contraintes de travail, la normalité se définirait alors comme un compromis entre la souffrance occasionnée par les contraintes de travail, qui tendanciellement pousse vers la décompensation psychopathologique, donc la souffrance d'un côté et les défenses de l'autre. Or, il se trouve que lorsqu'on se penche sur les défenses déployées par les hommes et les femmes qui travaillent, on découvre une clinique impressionnante par son foisonnement, sa diversité, sa subtilité aussi et son intelligence. La normalité, d'une part, c'est le résultat d'une conquête. Et être normal, c'est déjà pas si mal que ça, dans un contexte où ça n'est pas du tout évident de maintenir tout ça ensemble. Générer le pire, la maladie, mais il peut aussi donner le meilleur. Pourquoi ? Alors, quels sont donc les ressorts qui font du travail un médiateur de la santé ? Alors, pour répondre à cette question, il faut se déplacer du côté de l'analyse du plaisir au travail et pénétrer dans la relation entre subjectivité et travail. Alors, je vais essayer de vous donner un aperçu de la façon dont on s'efforce d'analyser les rapports entre subjectivité et travail. Et pour ce faire, je vais vraiment m'enfoncer dans le monde ordinaire et donc dans la vie quotidienne. Et pourtant, je pense que cette analyse a des implications politiques majeures, surtout dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Alors pour nous, à partir du regard clinique, le travail, c'est ce qui implique du point de vue humain le fait de travailler, à savoir des gestes, des savoir-faire, un engagement du corps, la mobilisation de l'intelligence, la capacité de réfléchir, d'interpréter et de réagir à des situations. Mais c'est aussi le pouvoir de sentir, de penser et d'inventer. En d'autres termes, pour le clinicien, le travail, ce n'est pas en première instance le rapport salarial, ni l'emploi, c'est le « travailler », entre guillemets. Comme on dit, le souper, le boire, le manger, c'est un verbe substantivé. Le « travailler », c'est-à-dire un certain mode d'engagement de la subjectivité et de la personnalité pour faire face à une tâche encadrée par des contraintes. Et ce qui caractérise le regard du clinicien par différence avec tous les autres regards, c'est de chercher à saisir ce qu'implique pour le travail le fait d'être vivant. Car même si le travail est bien conçu, même si l'organisation du travail est rigoureuse, même si les consignes et les procédures sont claires, eh bien, il est impossible, même si elles sont claires, d'atteindre la qualité si l'on respecte scrupuleusement les dites prescriptions. En effet, les situations de travail ordinaires sont grevées d'événements inattendus, de pannes, d'incidents, d'anomalies de fonctionnement, d'incohérences organisationnelles même, d'imprévus provenant aussi bien de la matière que, par exemple, des clients ou des patients. De fait, existe toujours un décalage entre le prescrit et la réalité concrète de la situation. Ce décalage entre, d'un côté, le prescrit et, de l'autre, l'effectif, se retrouve à tous les niveaux de l'analyse. Par exemple, comme on le distingue en ergonomie, entre tâches, c'est-à-dire les objectifs à atteindre, et activités, ce que font effectivement celui-là. Ou encore entre l'organisation formelle et l'organisation informelle. Travailler donc, en tout cas, c'est combler l'écart entre le prescrit et l'effectif. Or, ce qu'il faut mettre en œuvre pour combler cet écart ne peut pas être prévu à l'avance. Ce chemin à parcourir entre le prescrit et l'effectif doit être à chaque fois inventé et découvert par le sujet qui travaille. Ainsi, pour le clinicien, le travail se définit-il comme ce que le sujet doit ajouter aux prescriptions pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Ou encore ce qu'il doit ajouter de soi-même pour faire face à ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour cette raison que nous devrions toujours nous rappeler que ce qui caractérise le travail, c'est le fait d'être vivant. D'ailleurs, on connaît des situations où les travailleurs ou les opérateurs, comme on dit en ergonomie, s'en tiennent strictement, rigoureusement au travail d'exécution. Et alors, c'est une calamité. S'ils respectent exactement les ordres dans une obéissance absolue, ça s'appelle une grève du zèle. Ou mieux encore, un travail mort. Et alors, plus rien ne fonctionne. La production tombe en panne, il peut y avoir aussi des accidents. Aucune entreprise, aucune organisation, aucune institution, aucun service, aucun atelier ne fonctionne si les opérateurs deviennent obéissants. Alors, je vais introduire maintenant un deuxième terme, un deuxième concept, c'est plus chic, qui est celui de réel, le réel du travail. L'écart entre le prescrit donc et l'effectif n'est jamais définitivement comblé. Surviennent toujours dans toutes les situations de travail des incidents, des difficultés imprévues. Par exemple, je donne un exemple pour illustrer ça. Lorsque j'étais interne débutant, il y avait un vieux malade russe hospitalisé pour un cancer du poumon. Il avait un épanchement pleural qui aggravait beaucoup sa dyspnée et donc je décide de lui faire une ponction de plèvre. Comme j'aimais beaucoup ce vieux patient russe pour des raisons tout à fait malhonnêtes, je ne voulais pas lui faire mal et donc je lui injecte 1 ml de xylocaïne pour anesthésier la zone de ponction. Et voilà qui fait une réaction suraiguë au produit, un état de choc. Alors, il se trouve que je l'avais pour cette ponction fait descendre dans une salle de réveil. Les réanimateurs étaient juste à côté, ils viennent à l'aide, ils l'intubent. Mais le bronchospasme est absolument invincible, malgré de fortes doses de corticoïdes. L'air est insufflé mais ne passe pas dans les bronches. En quelques minutes, ce pauvre homme se transforme par l'emphysème sous-cutané en un énorme bibendum difforme. Il fait une fibrillation ventriculaire, on le choque, une demi-heure de massage cardiaque, rien n'y fait, il décède. J'ai tué mon malade. C'est une expérience horrible. C'est celle du réel. Le réel, c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance au savoir-faire, aux procédures, aux prescriptions. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour les réanimateurs, qui se trouvent dans la même situation que moi finalement aussi. Plus généralement, ce qui se révèle donc, le réel, c'est ce qui se révèle sous la forme d'une résistance à la maîtrise technique, voire au-delà, à la connaissance. Alors, il y a un paradoxe dans le réel, car lorsque tout mon savoir se heurte à la résistance du monde, alors je suis assurément dans le réel. Et ce que je tenais pour vrai jusque-là apparaît soudain faux. Le réel, c'est la vérité qui se révèle en quelque sorte par la négative. Le réel donc se fait connaître à celui qui travaille, et c'est sur ça que je voudrais insister, d'abord sous la forme de l'échec. C'est-à-dire comme une expérience désagréable, pénible, ou comme un sentiment d'impuissance ou d'angoisse, et quelquefois d'irritation, de colère, de déception, ou de découragement. En d'autres termes, c'est toujours affectivement que le réel du monde se manifeste d'abord au sujet. Chaque médecin qui quitte l'hôpital pour s'installer dans un cabinet va devoir trouver par lui-même, avec son intelligence inventive et créative à lui, beaucoup de ficelles de métier qu'on ne peut pas lui apprendre. Il en va de l'apprentissage soignant comme de l'enfant. On n'apprend jamais à un enfant à marcher, par exemple. On le maintient par les mains, mais on ne l'explique jamais comment tendre ses muscles, mouvoir ses articulations, enchaîner ses mouvements. Il faut qu'il le découvre tout seul, et qu'il fasse aussi, comme nous, l'expérience du réel, à force de chutes et d'échymoses, jusqu'à ce qu'il trouve ou invente les solutions pour rattraper son équilibre quand il vacille. Alors cette intelligence dont je suis en train de vous parler, qui est au principe même du zèle au travail, est donc quelque chose de totalement original par rapport à ce que nous dit le savoir académique. Elle n'est pourtant pas inconnue, elle est seulement déconsidérée, et cela depuis très longtemps, puisqu'elle était répudiée par Platon, mais soutenue par Aristote. Les Grecs anciens connaissaient cette intelligence et la vénéraient au travers d'une déesse qui s'appelait Métis. Pour les Grecs, Métis était une intelligence qui agit par ruse, comme le renard qui fait le mort pour que le coq ne se méfie pas de lui. Ou qui agit par mimétisme, comme le poulpe qui prend la couleur du rocher en attendant le passage de la proie. C'est aussi cette intelligence, une intelligence qui repose sur l'épargne de l'effort, en usant s'il le faut de la tricherie, au jeu ou au combat, qui utilise la force, le poids et l'inertie de l'adversaire pour le faire choir. Même si c'est un peu décalé, si c'est un peu anachronique, c'est l'astuce, si vous voulez, de David contre le géant Goliath. La métisse se préoccupe surtout de l'efficacité et prend effectivement des libertés, ou se montre quelquefois même carrément impertinente, avec les règles et avec les lois. La tricherie la fraude, le bluff font partie éventuellement de ces moyens, mais lorsque le résultat est brillant et la victoire éclatante, alors l'admiration, le triomphe font oublier et pardonner les écarts par rapport à la règle. Le plus important, sans doute, dans les caractéristiques de cette intelligence, c'est qu'elle permet d'improviser, d'inventer des solutions, de trouver des chemins insolites dans des situations nouvelles, inconnues, inédites. C'est donc une intelligence rusée, mais aussi foncièrement inventive et créative, facétieuse parfois, insolente souvent. Les Grecs disent que c'est une intelligence courbe, c'est-à-dire qui ne suit pas les voies bien tracées du raisonnement logique. Toutes ces qualités métissent les doigts à son corps et à sa sensibilité, à sa souplesse, à l'habileté de ses mouvements. Métis donc était une déesse. Zeus s'était pris d'elle, c'est sa première femme, et bientôt elle est enceinte. L'inquiétude de Zeus se fait jour, il craint que l'enfant à naître accumule l'intelligence du père, qui dépasse celle de tous les autres dieux, et l'intelligence du corps, en plus, l'intelligence rusée de Métis, de la mère. Il craint les risques que lui ferait courir un rejeton plus intelligent que lui, qui pourrait peut-être un jour lui ravir sa place dans l'Olympe. Et il sait d'ailleurs comment lui-même il a vaincu les titans et de son propre père Cronos. Donc il se méfie. Alors, il trouve une solution à cette difficulté et il décide d'avaler Métis et de conserver ainsi son intelligence dans son ventre à lui. On notera que cette intelligence se situe dans le ventre et non dans le cerveau. C'est très important. Bien sûr, c'est métaphorique pour l'instant, mais c'est un problème théorique de fond. Elle demeure, cette intelligence, l'intelligence du corps et non du seul cerveau. De cette incorporation magique, Athéna, l'enfant de Zeus et Métis, sortira, comme vous savez, tout armé de la tête de Zeus. Il faudrait une longue discussion pour expliciter les rapports entre l'intelligence au travail et le corps. L'habileté, la dextérité, la virtuosité, la sensibilité technique passent par le corps. Se capitalise d'abord et se mémorise dans le corps et se déploie à partir du corps. Et je dis bien le corps tout entier et non le seul cerveau sont le siège de l'intelligence et de l'habileté au travail. Le travail révèle que c'est dans le corps lui-même que réside l'intelligence du monde et que c'est d'abord par son corps que le sujet investit le monde pour le faire sien et pour l'habiter. La formation de cette intelligence, en fait, passe par la relation prolongée et opiniâtre du corps avec la tâche et avec le réel. Elle passe par une série de procédures subtiles de familiarisation avec la matière, avec les outils et avec les objets techniques. Par exemple, pour acquérir la maîtrise d'une machine-outil, pour devenir vraiment habile avec elle, il faut sentir cette machine, c'est-à-dire développer une sensibilité qui épouse toutes ses caractéristiques mécaniques. Il faut réussir, ce qui n'est pas facile, à se mettre en, alors là, évidemment, des guillemets, pas mal de guillemets sur le plan simplement, en symbiose avec la machine, comme si c'était mon corps lui-même qui, par l'intermédiaire du forêt, palpait et pénétrait dans le métal pour y faire des trous et lui arracher des copeaux. Si je ne sens pas cette action du métal contre le métal avec mon corps, je risque de surchauffer la machine et de la casser. L'ouvrier habile ne se concentre pas seulement sur l'objet à usiner. Il pense et essaie de sentir constamment la machine pour qu'elle ne se casse pas. J'étais encore jeune, il y a plus de 30 ans de ça, j'ai travaillé dans les prisons. Alors je n'étais encore ni médecin ni psychiatre, mais on me laissait seul avec une population de 2000 prisonniers. Il y avait dans cette prison une section réservée aux détenus présentant donc des problèmes psychiatriques particulièrement graves, incompatibles avec la vie carcérale ordinaire et qu'on envoyait là de toute la France. Ce qui pouvait se passer là chaque nuit était effarant. Parmi les détenus, il y avait un ressortissant italien, un géant de plus de 2 mètres, qui ne connaissait pas plus le français que moi l'italien. Il faisait des crises délirantes et démolissait tout, mais tout, sa cellule. Il hurlait en frappant la porte. Évidemment, on ne savait plus très bien que faire, et alors on appelait, dernier recours, le médecin. C'est malin. Alors à travers la porte, il hurle qu'il est attaqué par les Chinois et par les Maoïstes. Et on me fait entrer dans la cellule. Alors, j'avais... Et évidemment, il referme, c'est des ruses de surveillance, c'est contre le médecin, qui évidemment, pour... bon, je ne vais pas raconter ça, mais c'est toujours... Enfin, eux aussi sont rusés, donc ils me foutent dedans. J'avais peur, ils hurlaient, et ils pensaient que j'étais un Chinois déguisé. J'ai eu un passé maoïste. Le pire, c'est un aveu que je n'aurais pas dû faire, mais c'est vous qui riez, ça finit par me faire décompenser. Alors, jamais je l'ai dit. Hein. Bon. Alors je m'assois sur son chalit et je parle sans m'arrêter en le regardant dans les yeux. Je comprends quelques-uns de ses mots et il y a des histoires de guerre, d'invasion. Enfin, des tas de trucs, et je lui réponds alors inlassablement, c'est la seule chose que je suis qui rêve finalement par pouvoir bredouiller, et je lui dis, et je suis le docteur. Façon répétitive, enfin de façon continue, quand même, j'entretenais la conversation. Il se calme un peu, et puis mais bon, il ne peut pas dormir, il m'explique-t-il finalement, enfin je continue par comprendre, et maintenant il se met devant la porte et il ne veut plus que je sorte de la cellule. Je dois passer la nuit avec lui. Alors je lui dis que pour qu'il puisse dormir, il faut que je lui fasse une piqûre de neuroleptique. Il a peur de la piqûre. Et ce grand gaillard me dit tout à coup, criminel, enfin, ça fait mal, je ne veux pas la piqûre. Il semble vraiment avoir peur de la piqûre et c'est comme si derrière le géant, il y avait un petit enfant affolé. Et moi de lui répondre, non. Non, moi, le docteur, je ne fais pas mal quand je fais les piqûres. Il ne connaissait pas l'histoire des raquets d'ailleurs, postérieurement. Ni l'histoire du russe, qui était antérieure. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis un peu maniaque. Alors, donc je reprends. Non, moi le docteur, je ne fais pas mal quand je fais des piqûres. Difficile à expliquer. Il finit par accepter, mais comme à mon tour j'ai peur qu'il ait soudain une réaction violente, je lui dis, écoutez, on va faire la piqûre à deux. Vous, vous vous couchez sur le lit, et quand vous êtes prêt, vous dites 1, 2, 3. Ah, ça, ça lui plaît. Mais il commence, il dit, il préfère 1, 2, 3, feu. Alors il baisse son pantalon, ma seringue est prête, et il hurle 1, 2, 3, feu, paf, je plante les lits. Oh, il est très content de ce petit scénario. Et par la suite, pendant 6 mois, toutes les nuits, il hurlait « Docteur Guillot !» absolument invraisemblable. Quand j'étais de garde, à la différence d'autres nuits, tout se calmait presque immédiatement, puisque donc on savait que j'allais venir tout de suite. Dès que j'entrais dans la cellule, il baissait son pantalon. « Docteur Guillot, 1, 2, 3, feu !» Bah, ça partait. Tout le monde était content, lui, moi, les gardiens de prison, les autres détenus qui pouvaient dormir. Bon.
Retrouvez vendredi 17h30 la seconde partie du Travail Invisible avec Christophe Dejour.